La bibliothèque en vadrouille continue à découvrir les divers stands du Salon du Livre de Colmar. Et donc là, nous sommes arrêtés un petit temps devant le stand de CMDE, le collectif des métiers de l'édition, une maison d'édition installée à Toulouse. Et pour nous en parler, c'est Paulin qui va donc s'entretenir avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes invité ici au Salon du Livre de Colmar dans une zone particulière qu'il faut reciter, qui est l'autre salon, et qui est donc un endroit dédié à la micro-édition, la sérigraphie. Et donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur justement l'origine de cette maison d'édition installée à Toulouse ?
Alors, donc le CMDE, Collectif des Métiers d'Édition, en fait, au départ, ce sont trois personnes qui ont envie de se regrouper parce qu'ils ont des projets d'édition parallèles. Donc, une personne voulait faire vraiment de la critique sociale, une autre travailler sur la diffusion en Europe et en France des luttes populaires en Amérique latine, et une troisième voulait vraiment travailler sur un répertoire oral populaire au travers des contes, donc faire des livres illustrés basés sur des contes. Donc ça, c'est la première envie. Et la deuxième envie, c'est faire les choses ensemble en collectif, c'est-à-dire penser le livre de façon horizontale, tous ensemble, en mettant nos savoir-faire en commun, et en décloisonnant les métiers du monde du livre. Donc en s'auto-formant, en apprenant ensemble à travailler sur les livres, et aussi en ayant en tête qu'un livre n'est pas juste un auteur et un lecteur avec un intermédiaire au milieu, mais que toutes les personnes qui interviennent sur le texte de l'auteur sont d'une certaine manière des auteurs.
Mmh. Alors, peut-être aussi pour tout de suite donner un petit peu un exemple concret de vos activités et puis de vos réalisations, on pourrait peut-être évoquer une collection que vous avez lancée, qui est donc Dans le ventre de la baleine, une série, une collection, je ne sais pas. Et donc à travers ce projet en particulier, qui me semble particulièrement novateur, puisqu'il met en dialogue quatre auteurs qui interviennent chacun dans un champ précis.
C'est ça. Donc là, on est face à un livre qui s'appelle Monde de Mitra, qui fait partie d'une série de réflexions et de jeux littéraires autour de la mythologie. Donc là, on a une figure mythologique qui est Mitra, qui est l'objet d'un culte au début de la naissance du christianisme, qui est un taureau. Et en fait, l'idée de ce livre, pour ceux qui le regarderont sur le stand, ils verront que ce sont en fait 24 cartes détachables qu'on peut faire voler, qu'on peut coller au mur, qu'on peut mettre en frise, qu'on peut assembler donc dans n'importe quel sens, puisque l'idée est de rentrer dans cet univers de Mitra à la fois par l'image, donc qui est une espèce d'immense puzzle, ou bien par le texte, donc au verso des cartes, où là on a des micro-nouvelles qui participent de cet univers-là et qui sont donc des jeux littéraires autour du genre littéraire. Donc on a à la fois du polar, de la science-fiction, du roman à l'eau de rose, vraiment, et tout ça dans l'univers du conte. Donc en fait, ce livre a été écrit, a été conçu par quatre personnes, donc deux conteurs, Julien Taubert, Alexandra Mélis, un plasticien sonore, Célio Paillard, et un illustrateur, Olivox. Donc l'idée, c'est qu'ils ont été regroupés à deux reprises pendant deux semaines dans une résidence, avec comme seule contrainte au départ, le genre littéraire.
Et cette résidence, elle était portée par vous, l'association, ou par un autre organisme?
C'est nous qui l'avons proposé dans une ville à côté de Toulouse, où il y a justement un centre qui permet ce genre d'initiative. Donc nous, on leur a proposé ce projet-là. On voulait faire ce livre,
et là, c'était l'occasion. Comment se nomme ce centre?
Alors, ça s'appelle la Maison Salvant, c'est plutôt un centre d'art contemporain. Et voilà, nous, on voulait vraiment faire ce livre, donc on a réussi à trouver ce partenaire pour rendre ça possible, donc arriver à faire venir trois personnes du nord de la France à Toulouse avec l'illustrateur pour travailler là-dessus. Donc ils ont d'abord fait des spectacles, où ils ont créé des formes orales de ces histoires. À partir de ces spectacles, ils ont écrit des premiers textes. À partir de ces textes-là, l'illustrateur a fait des premières versions de ces illustrations. À partir de ces illustrations, les conteurs ont repris leurs textes. Et à partir de ces versions finales des textes, l'illustrateur a fait la version finale des illustrations.
C'est vraiment un travail de maturation. C'est ça. Là, on aboutit à une forme qui à laquelle ils n'avaient peut-être pas du tout pensé au début de leur résidence.
Absolument pas. C'était pas du tout ça. En fait, ils étaient partis juste avec une contrainte. Donc voilà, tout le travail a été fait aussi avec eux sur trouver une forme adéquate à ce livre-là.
Très bien, alors maintenant un autre exemple à travers cette bande dessinée, La Racine de l'Ombu, qui est donc un travail à deux mains, à quatre mains, entre Julio Cortázar, le romancier argentin, et Alberto Cedrón, qui est lui un dessinateur. Voilà.
Et donc, qui est même un muraliste.
Muraliste, voilà. Employer le terme précis. Et donc là, c'est un projet qui est complètement inédit, puisque c'était un travail non publié du vivant des auteurs.
Ça. Donc là, c'est une histoire éditoriale assez, assez singulière et complètement incroyable, puisqu'on est quand même, je veux dire, on a dans les mains les livres d'un des maîtres de la littérature argentine. On est quand même sur un texte de Cortázar. Il faut dire que c'est vraiment pas un fond de tiroir non plus de Cortázar ou de Cédron. On est face à une œuvre unique, en fait, parce qu'elle est restée inconnue jusque-là. Donc, donc c'est un livre qui parle de l'exil et de la dictature argentine, écrit dans les années 70, en exil à Paris, donc par ces deux auteurs-là. Et en fait, ils vont l'écrire, il sera impossible pour eux de la publier en Argentine, évidemment, parce que c'est en pleine dictature. Du coup, ils vont confier les planches originales de cette BD à un éditeur vénézuélien qui, en plus de les égarer, va leur faire une édition pirate dans le dos, tirée à très peu d'exemplaires et avec un massacre total sur la couleur et sur l'illustration. Du coup, n'existera en vérité de cette édition, de ce livre, que quelques exemplaires qui vont se balader depuis les années 70. Et c'est que donc en 2004, au moment d'une rétrospective autour du travail d'Alberto Cédron, donc un grand muraliste argentin qui vient de la famille de Juan Tata Cédron, voilà, qui est une grande famille d'artistes. Là, en fait, il y a une équipe de graphistes qui vont restaurer ces planches à partir de l'édition pirate de mauvaise qualité et vont faire un petit tirage pour l'exposition uniquement. Et du coup, là, en fait, l'édition qu'on a établie, c'est la première édition grand public de ce titre-là. Donc, évidemment, on n'est pas. Le projet nous a été apporté par le traducteur Mathias de Brenne. On n'est pas les premiers qu'il est allé voir, mais il n'a pas été accepté par toutes les autres maisons qu'il est allé voir. Donc, par chance, c'est tombé sur nous, il est venu nous voir. Donc pour nous, c'est vraiment un peu un maître-livre, parce que déjà, on est face à une œuvre incroyable de deux personnes qui ne font pas de la BD, mais qui sont dans une expérimentation et dans une avant-garde de la BD assez incroyable encore aujourd'hui. On est vraiment sur un travail de l'image, de la couleur et puis de la narration qui est tout à fait inédite. Et puis pour nous aussi, ça a été un gros travail collectif, dans l'idée qu'on peut aussi travailler tous ensemble, puisqu'on a vraiment, on avait affaire à un livre qui n'existait pas en réalité, qui n'avait jamais été publié. Donc on avait aussi le loisir de créer une édition, véritablement créer une édition. C'est pour ça qu'on a choisi aussi de faire, pour ceux qui verront le livre, une préface en images, où on met vraiment en avant le travail du détail de Cédron, qui lui a l'habitude de travailler sur des formats gigantesques. Donc voilà, à Buenos Aires, il y a des fresques de lui qui sont absolument démentielles. Et du coup là, on voulait mettre en avant ce travail du détail, cette finesse du dessin, tout en sachant que cette BD reste une BD, donc qui se lit comme une BD, donc c'est quand même un travail séquentiel, narratif.
Alors maintenant, une autre question pour poursuivre l'entretien. Dans ce collectif, donc, vous êtes donc plusieurs aujourd'hui. Est-ce que tu peux essayer, même si ce n'est pas forcément évident, mais de résumer un petit peu les valeurs qui vous réunissent tous et de savoir un peu d'où vous venez, sans donner un détail, mais de quel univers vous venez, si vous êtes plutôt des gens qui viennent de l'écriture, du dessin, pourquoi pas des gens qui viennent d'un domaine complètement autre que celui du livre. Voilà. Comment en fait s'est forgé ce collectif et qui demeure et qui augmente, puisque je vois qu'il y a d'autres projets comme notamment la sortie prochaine d'un document dont tu nous diras peut-être un mot, là, qui est annoncé pour début de l'année. Enfin, voilà.
Ouais. Alors, les gens du collectif viennent de milieux assez différents, en tout cas de professions assez différentes. Il y a par exemple quelqu'un qui était cuisinier, qui est un des créateurs, et c'est lui qui a apporté l'argent au départ et qui a monté ça entre autres, donc avec deux personnes, qui s'était aussi rencontré autour de mouvements sociaux. Voilà, donc il y a quand même une veine politique dans tout le travail, quand on est dans les essais, mais aussi quand on pense les contes, et voilà, il y a quand même ce fond-là qui est présent. Mais sinon, on n'est pas des amis au départ, nécessairement. On s'est retrouvés autour de la manière de travailler et autour de cette idée du collectif. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait qu'on était ensemble. Donc on n'est pas une maison d'édition qui regroupe des gens avec au départ un projet éditorial, disons pensé en amont, disons qu'on se retrouve. On avait une envie commune de faire des livres, une vision commune de ce que devait être le travail sur un livre et l'envie d'apprendre ensemble. Et après, évidemment, il y a quand même des sensibilités qui se dégagent et des lignes de force, on va dire, qui existent dans le catalogue, qui se retrouvent aussi au sein de notre collectif.
Et est-ce que vous avez aussi des affinités donc avec d'autres collectifs de Toulouse, ou moi je pense aussi peut-être à d'autres éditeurs dans d'autres régions de France que vous auriez pu croiser lorsque vous faites des salons comme aujourd'hui, puisque il y a notamment, je crois, je ne suis pas certain du mot, mais du titre, pardon, Le Monde à l'envers à Grenoble, qui est une petite maison d'édition aussi qui fait tout un travail sur la critique, entre autres, des nanotechnologies, puisque Grenoble est une des villes de France où il y a tout un programme qui est mis en place pour promouvoir ceci. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres maisons d'édition desquelles vous vous sentez proche? Voilà, encore une fois, je répète ma question, à Toulouse ou ailleurs, quoi.
Oui. Ben oui, alors il est vrai qu'autour de Toulouse, il y a quand même une très grosse dynamique éditoriale. Donc si on reste dans la veine du Monde à l'envers, autour de chez nous, dont on s'en proche, il y a quand même les éditions du Bout de la Ville, qui mènent une critique, voilà, des industries au sens large. Ils ont fait des livres sur le nucléaire, des livres sur l'élevage, l'agriculture. Et ils ont des champs très larges, donc voilà, on est assez proche d'eux. Il y a par exemple aussi les éditions de La Lenteur qui sont dans cette veine-là, dont on peut être proche. Mais d'autres, par exemple, on partage nos locaux avec les éditions Anacartis qui sont aussi présentes sur ce salon, voilà, dont on est proche. Il va y avoir à Paris, par exemple, les éditions Nada, ou aussi dans le... Ils ont autour de Toulouse des fondeurs de briques, voilà, qui vont être sur la littérature d'Amérique latine, et puis des bouquins sur la musique, la contre-culture. Il y a beaucoup de maisons, mais comme ça, dont on va pouvoir se sentir proche, bien même. Même au niveau du conte, on est... Les éditions Corentin, par exemple, font un travail qu'on peut apprécier. Voilà, il y a beaucoup de monde qu'on aime bien.
Très bien. Alors peut-être le dernier mot, si tu pouvais nous dire quelques mots sur ce projet dont vous présentez une sorte de petit fac-similé promotionnel, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou plutôt informatif, Quartier en guerre, donc, qui sort le 26 janvier.
Ouais. Alors ça, c'est un projet très lourd, très long, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. En fait, c'est une BD somme sur le New York des années 80. Donc, on est face à un auteur qui s'appelle Seth Bachman, qui est le compagnon de route d'Eric Drucker, de Peter Cooper, qui est la génération en fait juste après Art Spiegelman, donc c'est des gens qui se côtoient à New York. Donc c'est la première traduction en français de Seth Bachman, et dans cette BD, Quartier en guerre, donc fait plus de 300 pages, qui est on va dire son maître livre, qu'il a écrit sur plus de 10 ans. C'est son histoire dans les luttes contre la gentrification dans les années 80 à New York, donc au moment où la mairie décide d'assainir, évidemment, entre guillemets, et de nettoyer tous les quartiers populaires de Manhattan, donc qui sont à 2 pas du sommet de la finance mondiale, et cherche à expulser donc tous les indésirables. Donc lui, il raconte de l'intérieur à quoi ressemblaient les tentatives d'opposition. Donc on est vraiment, c'est à la fois un récit politique, mais c'est aussi un récit humain où en fait il raconte les tentatives, les échecs, comment faire les choses en collectif, comment des fois on n'y arrive pas, à quel point ça peut être difficile, et en même temps à quel point ça peut être beau. Du coup, c'est aussi pour nous une BD qui résonne dans une moindre mesure, évidemment, par rapport à ce qu'on fait, mais il y a quand même cette envie-là de dire voilà, on peut faire des choses quand on est différent, même si ça demande du boulot. Bon, en tout cas, voilà. Donc ça, c'est une BD qu'on a hâte de pouvoir sortir, qu'on est sur la fin, on en voit bientôt l'impression, et on a hâte.
Très bien. Ben, merci bien, Paulin, d'avoir pris ce petit temps à la volée pour cette discussion. Et on répète aussi qu'il y a, bien entendu, j'imagine, un site internet sur lequel les auditeurs pourront retrouver les informations. Et votre catalogue papier est très, très réussi. Parce que c'est important aussi, tout en ayant une présence en ligne, de ne pas oublier, vous êtes éditeur, donc vous savez de quoi vous parlez. Mais le catalogue papier, d'ailleurs, je m'en aperçois,
voilà.
est un clin d'œil direct à ce projet somme que vous êtes en train de mener.
C'est ça.
Donc merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup.